Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on fera, comme à chaque émission, le point sur les sports et notamment sur les matchs de cette nuit en Ligue des Champions. Comme tous les jeudis, on retrouvera aussi Nicolas Perpich pour parler d'économie, plus particulièrement de ce méga projet très controversé d'exploitation de gaz naturel en Australie occidentale. On va aussi partir à la campagne, dans la région d'Orange, à l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, pour parler de la remise en cause du paiement au rendement, le piece rate, très répandu dans les fermes, notamment les fermes de fruits et de légumes. Et enfin, on parlera de cirque et de cirque à la française, pour être plus précis. Mais d'abord, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Les principales informations de ce jeudi 25 novembre 2021. À Canberra, Scott Morrison a présenté son projet de loi sur les discriminations religieuses. À Genève, l'OMS appelle les gouvernements à ne pas tout miser sur les vaccins pour lutter contre le Covid-19. Et en France, un drame dans la Manche, au moins 31 migrants ont péri alors qu'ils tentaient de se rendre en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Scott Morrison a présenté dans la matinée son projet de loi sur les discriminations religieuses au Parlement fédéral. Un projet de loi controversé et d'ailleurs plusieurs fois modifié. La version actuelle ne satisfait d'ailleurs plus personne. D'un côté, certains estiment qu'elle ne va pas assez loin dans la protection des croyances de certains, tandis que d'autres estiment que ce texte accroît les risques de discrimination à l'égard de certains groupes, notamment les membres de la communauté LGBT. Scott Morrison assure pour sa part que ce texte a pour objectif de combler les vides juridiques existant dans les lois s'appliquant dans les différents États du pays sur ce genre de questions et que par ailleurs, il apporte une protection aux croyants au niveau fédéral. On l'écoute.
This bill is balanced and thoughtful. It does not take from the rights and freedoms of others, Mr. Speaker. We do not seek to set one group of Australians against another. Because to do so would diminish us all. It strengthens important freedoms that have been buffeted over recent years. The bill honours the mandate we have from the Australian people to protect Australians of faith and religion against discrimination.
Sur le front du coronavirus en Australie, l'État du Victoria recense aujourd'hui 1254 nouveaux cas ainsi que 5 décès. Par ailleurs, le cap de 90% de la population âgée de plus de 12 ans vaccinée dans cet État vient d'être franchi. En conséquence, le dirigeant Daniel Andrews a tenu à les remercier.
I would also say that with about 94% of people at least first dosed, we are well on track to get to that. What has been described by some as that kind of magic 95% number, what that'll mean is that we are without any doubt one of the most vaccinated and therefore one of the safest places anywhere in the world.
Pour ce qui est de la Nouvelle-Galles du Sud, 276 nouveaux cas aujourd'hui recensés et un hôtel fréquenté par des backpackers à Byron Bay a été placé en confinement pour au moins 48 heures. Un cas de Covid y a été détecté. On recense également dans cet hôtel plus de 80 cas contacts. Cette mesure préventive s'explique en fait par le fait que on attend à la fin de la semaine l'arrivée de milliers d'élèves de Year 12 et ce à l'occasion de la Schoolies Week. Toujours en Nouvelle-Galles du Sud, le gouvernement vient de dévoiler un plan en vertu duquel il va procéder à l'abattage de milliers de chevaux sauvages dans le parc national de Kosciuszko. La population actuelle de ces chevaux, qu'on appelle des Brumbies, se situe en ce moment autour de 14 000 et l'objectif est de les ramener à 3 000 d'ici à 2027. Ce projet, bien sûr, suscite la controverse. Les militants écologistes défendent cette mesure d'abattage en rappelant que ces chevaux ont un impact lourd sur la faune endémique, mais aussi les cours d'eau, tandis que les défenseurs de ces chevaux font valoir qu'ils font désormais partie du patrimoine australien. Rappelons à ce sujet que les chevaux, comme toutes les espèces portant des sabots, ont été amenés en Australie par les colons. Alors que l'Europe est de nouveau à l'épicentre de la pandémie de Covid-19, l'OMS a appelé les gouvernements du monde à ne pas miser uniquement sur la vaccination. Un message qui intervient alors que le nombre d'infections en Europe a bondi de 11% la semaine dernière. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, rappelle que les personnes vaccinées peuvent toujours être infectées et transmettre le virus.
In many countries and communities, we're concerned about the false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions.
Aux États-Unis, un tribunal de Géorgie a reconnu 3 hommes blancs coupables du meurtre d'un noir, Amo Arbery. Cet homme de 25 ans avait été abattu en février 2020 alors qu'il faisait son jogging dans la ville de Brunswick. Les 3 hommes condamnés risquent la prison à vie dans une affaire qui, comme d'autres, ont émaillé l'actualité américaine l'an dernier et avait déclenché de nombreuses manifestations antiracistes à travers le pays. Marcus Arbery, le père d'Amo Arbery, s'est exprimé à l'extérieur du tribunal après que le verdict ait été rendu. On l'écoute.
We've conquered that little mark.
Yes!
We got that little mark. This history today. Letting you know that black kid life don't matter. For real, all life matter.
All life. Yes.
Not just black children. We don't want to see nobody go through this.
Amen.
I wouldn't want to see no daddy watch a kid get lynched and shot down like that.
That's right, Mom.
So it's all our problem. It's all our problem. So hey, let's keep fighting.
Direction maintenant le Royaume-Uni où la députée travailliste Stella Creasy est en colère. Elle s'est rendue il y a quelques jours à la Chambre des communes pour travailler avec son bébé qui est âgé de 3 mois. Cette initiative lui a valu le lendemain d'être réprimandée par les autorités parlementaires. On fait le point avec Marion Boéda pour Radio France Internationale.
La députée travailliste est assise au Parlement, elle porte son bébé en écharpe, il est calme, il dort. Elle l'allait encore, c'est pour ça qu'elle ne le laisse pas à la crèche. Le lendemain, Stella Creasy reçoit un email l'informant que le règlement lui interdit d'être accompagnée d'un enfant. Elle a tout de suite publié une photo de ce message sur Twitter et répondu à des interviews. Elle fait part de son incompréhension face à cette réprimande.
J'ai 2 enfants et je les ai amenés au Parlement autant que nécessaire car je dois représenter ma circonscription. Je n'ai pas de congé de maternité, donc si je ne peux pas avoir mes enfants avec moi, je ne peux pas me rendre à l'hémicycle et mes électeurs ne seront pas entendus.
Residents in Walthamstow don't get heard. Le système doit évoluer, ajoute-t-elle. Les femmes devraient pouvoir faire des enfants et de la politique. Lindsay Hoyle, le président du Parlement, annonce un réexamen de cette mesure. Les règles changent avec le temps, explique-t-il. Une règle absurde, selon une élue écologiste. Elle dit en plaisantant que l'enfant endormi est bien moins perturbateur que de nombreux députés braillards. Marie Boéda, Londres, RFI.
En France, au moins 31 migrants sont morts hier dans la Manche. Leur embarcation de fortune a chaviré alors qu'ils tentaient de se rendre en Angleterre. 26 autres migrants ont pu être secourus, mais ce drame a provoqué la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voici ce qu'il a déclaré mercredi soir.
Il y avait 780 policiers et gendarmes ce matin qui surveillaient les plages du littoral. Et il y a eu 255 personnes qui ont réussi à passer de l'autre côté de la Manche, mais 671 personnes qui ont été interpellées, arrêtées, empêchées de passer. Il s'agit donc d'une journée comme les autres, malheureusement, de migrants qui passent quelques heures, quelques jours, quelques semaines sur le territoire national et qui souhaitent partir en Angleterre à leur risque et péril, et souvent on le voit malheureusement encore aujourd'hui dans des drames absolument ignobles. Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été arrêtés depuis le 1er janvier. Et 4 passeurs aujourd'hui, dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune, ont été arrêtés, dont 2 sont aujourd'hui en décision de déferrement devant le tribunal. Et je voudrais remercier les services de police pour leur réactivité.
On reste en France où un conseil de défense sanitaire s'est réuni hier dans la capitale, Paris, alors que la France est confrontée actuellement à une 5e vague de l'épidémie de Covid. Les détails de ce conseil de défense seront révélés ce jeudi au public, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau confinement ni de couvre-feu. En revanche, les mesures sanitaires actuellement en place vont être renforcées. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Des orientations claires ont été actées ce matin. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque, en intérieur comme en extérieur, l'aération. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal.
Aux Antilles, la situation reste très tendue. La Guadeloupe et la Martinique sont agitées depuis quelques jours par des manifestations violentes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Dans la soirée, il y a eu des tirs d'armes à feu contre les forces de l'ordre en Martinique où, par ailleurs, de nombreux barrages sur les routes bloquent la circulation. On écoute le reportage de Pierre Olivier, envoyé spécial de RFI en Martinique.
En Martinique, les barrages filtrants sont plus nombreux qu'en Guadeloupe. Il y en a plusieurs dizaines sur les routes de l'île sans qu'il soit possible de tous les dénombrer. Conséquence de ces blocages, de gigantesques files d'attente se forment sur les routes, y compris sur les axes principaux. Et lorsque les automobilistes arrivent devant un barrage, ils doivent faire demi-tour. Seuls les soignants, les ambulances et les pompiers peuvent passer. La revendication principale, elle, est exactement la même qu'en Guadeloupe. Le retrait pur et simple de l'obligation vaccinale pour les soignants. Certains grévistes se disent aussi prêts à négocier.
On demande que le préfet, que l'ARS s'assoie autour d'une table pour négocier. On n'est pas des imbéciles. Nous, on vit dans la pauvreté. On est en train de mendier. On ne demande pas la violence. On ne fait pas la violence. On veut la paix. On veut négocier.
Et en attendant une éventuelle table ronde avec des élus locaux, la Martinique, elle, continue de tourner fortement au ralenti. Pierre-Olivier Fort-de-France, RFI.
Et maintenant un mot de sport pour dire que, sauf énorme surprise, après la France en 2023, c'est l'Australie qui devrait organiser la Coupe du monde de rugby en 2027. En effet, pour 2027, le seul autre candidat, ce sont les États-Unis. Or, d'après World Rugby, l'équivalent de la FIFA pour le ballon ovale, les États-Unis devraient organiser la Coupe du Monde en 2031. Et du coup, en 2027, ce serait donc l'Australie qui récupérerait cette compétition, même si la décision officielle ne sera rendue qu'au mois de mai. On termine ce journal comme d'habitude en jetant un petit coup d'œil à la météo du jour en Australie. 32 degrés et du soleil aujourd'hui à Perth, 22 et des nuages à Adélaïde, 17 et quelques averses à Melbourne, 27 degrés à Sydney où on va passer malheureusement la journée sous la pluie, 28 degrés à Brisbane, 33 à Cairns et jusqu'à 35 degrés à Darwin où le temps sera également très humide et il pourrait même tourner à l'orage ce jeudi. h 18 sur SBS en français. On passe maintenant au magazine des sports. Il a été préparé par Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain qui s'incline face à Manchester City dans le groupe A, 2-1. Les deux équipes sont qualifiées. Bilan de tous les matchs joués hier avec Sarah Loubacouche et l'équipe de Radio Foot International.
Ça vient à peine de se terminer sur la pelouse du Sporting. Il y avait eu 8 minutes de temps additionnel dans cette rencontre face à Dortmund. Le Sporting qui l'a emporté 3-1, un doublé de Pedro Gonçalves. Dortmund qui a marqué dans le temps additionnel. Le Real Madrid, de son côté, est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à cette victoire sur la pelouse du Sheriff Tiraspol. 3-0 pour le Real avec un dernier but signé Karim Benzema. Bon, on l'a suivi tout au long de la soirée en Manchester City et le Paris Saint-Germain sont tous les deux qualifiés. Qualification aussi pour les Parisiens malgré leur défaite face à Manchester grâce à la très belle soirée qu'a passée Leipzig sur la pelouse de Bruges. Leipzig qui s'est imposé 5-0, rien que ça, avec un doublé de Christopher Nkunku. Du côté de Madrid, de l'Atlético de Madrid, eh bien le club madrilène a été tenu en échec par l'AC Milan qui a marqué un but, qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse du club madrilène. L'autre match de la soirée, c'est tout non. Inter qui s'est imposé sur la pelouse du Shakhtar, 2-0. L'Inter qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. L'Ajax était déjà qualifié, mais a quand même assuré le spectacle sur la pelouse du Besiktas.
Mardi, bonne opération pour Lille contre Salzbourg, 1-0. Jonathan David a marqué le but lillois. Bilan du match avec Cédric de Oliveira pour RFI.
Et voilà le LOSC de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, leader de son groupe.
L'histoire, on l'écrit. Après, pour être là où on est aujourd'hui, en première place du groupe, à un match de la fin, on a fait beaucoup d'efforts. Quand je vois le stade, c'est une grande satisfaction parce que c'est des moments très importants. C'est pas rien.
Le stade Pierre-Mauroy qui a beaucoup poussé derrière son équipe, ballotté par la vitesse des Autrichiens. Mais comme souvent, les Lillois ont profité de l'inévitable Jonathan David, de loin à l'attaquant le plus prolifique du club cette saison. Le Canadien, auteur du seul but du match, mais toujours aussi modeste.
Je marque assez souvent, mais après ça reste un travail collectif. Pour moi, toujours le plus important, c'est la victoire. Après, si mes buts peuvent aider l'équipe, moi aussi je suis content parce que je suis un attaquant. Si c'est mon travail, c'est ça que je dois faire. Mais après, pour moi, le plus important, c'est toujours de gagner.
Jonathan David en aura encore l'opportunité dans 2 semaines à Wolfsburg pour la dernière journée de cette phase de poule. Un match nul en Allemagne suffira aux nordistes pour se qualifier.
Retour sur le match OM Lyon, arrêté le week-end dernier avec un fan ayant jeté une bouteille d'eau sur la tête de Dimitri Payet. Eh bien, le verdict est tombé pour le fan, comme l'explique Antoine Grenier pour RFI.
2 jours à peine après l'incident, la justice n'a donc pas traîné. Jugé en comparution immédiate, l'homme de 32 ans interpellé au stade juste après le jet de bouteille sur le joueur de l'OM a été condamné. Verdict moins sévère que les réquisitions de la procureure qui avait demandé de la prison ferme. Les 6 mois avec sursis sont assortis d'une mise à l'épreuve ainsi que d'une interdiction de 5 ans d'accès au Groupama Stadium. L'avocat du supporter s'est dit satisfait à l'issue de l'audience, lui qui avait estimé que les réquisitions étaient, je cite, disproportionnées. Une condamnation qui n'atténue toutefois pas l'onde de choc de l'incident qui a relancé le débat sur la sécurité dans les stades, qualifié d'urgence absolue par le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune. À l'issue d'une réunion avec les responsables du football français, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que des mesures seraient proposées dans 15 jours.
Karim Benzema, fixé sur son sort de complicité de tentative de chantage envers son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, et il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Les avocats annoncent qu'il faisait appel du jugement. Pour rappel, Karim Benzema est en lice pour le Ballon d'Or remis lundi prochain. Le Bayern de Munich, la polémique Covid, le club bavarois a décidé de réduire les salaires des joueurs non vaccinés contre le coronavirus et ils sont placés en quarantaine, comme nous l'explique Annie Gasnier pour Radio Foot International.
Les dirigeants ont face à eux plusieurs joueurs, et non des moindres, qui sont opposés au vaccin contre le Covid. Du coup, eh bien, l'équipe se retrouve amputée de plusieurs joueurs importants. Certains sont en quarantaine, d'autres sont isolés pour être des cas contacts. D'autres, par contre, réaffirment leur envie d'être immunisés et donc d'être vaccinés. C'est le cas, écoutons-le, de Leroy Sané.
Le plus important, c'est que je suis pour la vaccination. Je me suis fait vacciner moi-même. J'en ai déjà parlé à Serge Gnabry plusieurs fois. Je veux évidemment que les absents soient dans l'équipe, qu'ils soient avec nous sur le terrain pour qu'ils puissent nous aider. Ce sont des joueurs importants. Peu importe qui est absent en ce moment, nous, en tant qu'équipe, les voulons vraiment avec nous. Cela ne fait aucun doute. Mais je respecte aussi leur décision.
C'est un gros problème pour le club du FC Bayern en ce moment, parce que c'est un problème d'ordre moral finalement. Certains joueurs, alors non des moindres, hein, si on regarde la liste, il y a Kimmich qui symbolise un peu tout ça. Je crois que c'est le plus rebelle entre guillemets, mais il y a aussi Serge Gnabry, il y a Moussiala, et puis on a Eric Choupo-Moting et Michael Cuisance.
Le Comité international olympique a été accusé d'être complice de la propagande du gouvernement chinois en organisant un appel vidéo avec la star du tennis Peng Shuai. Elle a disparu au début du mois après avoir accusé un ancien haut responsable chinois d'agression sexuelle. Mais au cours du week-end dernier, Peng Shuai serait réapparu à Pékin et aurait tenu un appel vidéo de 30 minutes avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Mais les groupes de défense des droits de la personne ne sont pas convaincus, affirmant que le gouvernement chinois a déjà organisé des événements similaires. Sophie Richardson est directrice de recherche sur la Chine auprès de la division Asie de Human Rights Watch. Elle dit que toutes les instances dirigeantes du sport devraient prendre note de la façon dont la WTA, Women's Tennis Association, a géré la situation.
To watch the WTA punch back both against Chinese state media and IOC rhetoric, particularly around whether Peng Shuai is actually safe, has been great. You know, they've said publicly, well, that's very nice that you could have a video call, but that doesn't answer our concerns about sexual assault or whether Peng Shuai is free to communicate.
Tennis toujours, l'ATP revoit ses règles sur les pauses toilettes, temps de pause réduit à 5 minutes maximum. Et puis Tennis Australia qui précise les modalités pour l'Open d'Australie du 17 au 30 janvier prochain. Les joueurs devront être pleinement vaccinés avec deux doses de vaccin reconnues 7 jours avant d'arriver en Australie. Et puis le français Joe Wilfried Tsonga espère obtenir une wild card pour l'Open d'Australie. Sa dernière apparition était à l'US Open où il s'est blessé et il avait dû déclarer forfait. Benoît Paire, l'autre Français 46e mondial, prévoit de venir en Australie et il déclare qu'il jouera les deux tournois australiens avant l'Open d'Australie. Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
C'est l'heure maintenant de notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi, le journal de l'économie en Australie. Il est présenté par Jean-Noël Ducasse et c'est Nicolas Perpich qui fait le point sur tous ces sujets.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
La compagnie Woodside a donné le feu vert à son énorme projet de pétrole et de gaz naturel à Scarborough. C'est au large de la côte de l'Australie occidentale, mais pas tout le monde est d'accord ou content.
Oui, non, tout à fait. C'est vraiment immense, ce projet. 16,5 milliards de dollars. Ça s'appelle Scarborough, mais c'est pas comme la plage à Perth. C'est en fait Ça va se passer tout au nord, très loin de Perth, dans le nord-ouest de l'État, au large de la côte. Et ça, c'est un projet que Woodside est en train de planifier depuis des années, très, très, très longtemps. Donc là, ils ont annoncé la décision finale d'investissement. Et ils ont déjà la plupart des accords du gouvernement, donc c'est plus ou moins sûr que ça va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a des groupes écologiques qui ont voué de continuer la lutte contre ce projet dans les tribunaux, mais aussi des manifestations, des protestes. Et puis il y en a eu cette semaine sur le Barra Peninsula où il y a des gens qui se sont attachés sur la route là pour que les camions et les voitures ne pouvaient pas passer du tout parce que ce projet, il y a beaucoup de questions à propos de la pollution, parce que ce projet ça va créer beaucoup de gaz à émission à effet de serre en même temps que l'Agence internationale de l'énergie a fait appel pour la fin des projets comme ça, des nouveaux projets de gaz naturel et de pétrole. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de groupes qui sont opposés à ça. Et en fait, c'est le premier projet de cette taille qu'on a vu avoir le feu vert en Australie en 10 ans. Et beaucoup de gens qui disent que ce serait peut-être le dernier, parce que le climat change, le vrai climat, mais le climat des marchés aussi change, et ça devient de plus en plus rare de voir des projets comme ça. Il y a les groupes écologistes qui disent que c'était un désastre, c'est un désastre pour le climat, c'est un désastre pour les animaux marins dans l'endroit, mais aussi il y a des sites aborigènes traditionnels sur la Barra Peninsula, et ils disent que ça va les abîmer, et en même temps ils disent que c'est le projet le plus polluant proposé en ce moment ici en Australie, parce qu'ils disent que ça va ajouter 1,6 milliard tonnes de gaz à effet de serre pendant la vie du projet, et donc c'est très irresponsable. Mais en même temps, Woodside, qui est la compagnie bien sûr derrière ce projet, dit que ça va aider le monde à réduire les combustibles fossiles, parce que en fait ce projet, ça a créé moins de gaz à effet de serre que le charbon. Donc ça va aider la transition vers l'énergie renouvelable. Donc voilà, ça c'est l'argument de Woodside. Mais bon, cette histoire n'est pas finie. C'est plus ou moins sûr que le projet va continuer, mais il y aura beaucoup d'opposition qui va continuer pendant pas mal de temps. Et on voit là, c'est une période de changement dans l'investissement, dans les finances des énormes projets comme celui-là.
Et puis, les gens qui voyagent à l'étranger peuvent désormais acheter l'assurance voyage qui prend en compte le COVID-19. Et on va parler de ce qui est couvert ou non, Nicolas.
Oui, voilà. Donc, les Australiens peuvent voyager à l'international, là, pour la première fois. Et il y en a qui payent des centaines de dollars pour l'assurance voyage. Mais si on regarde de près, pas tout est compté dedans. Donc, on peut acheter de l'assurance voyage avec Qantas ou d'autres compagnies. Et il y a des gens qui ont déjà fait ça, ils commencent à voyager. Les gens sont très contents, bien sûr, de pouvoir quitter l'Australie. Alors, c'est sûr qu'il y a une grande liste de ce qui est couvert par cette assurance, parce que maintenant, on ne peut pas ignorer le COVID-19. Alors, par exemple, si pendant leur voyage, ils sont diagnosés avec COVID-19, et ben cette assurance va payer pour leurs frais à l'hôpital et d'autres frais. Et s'ils doivent changer leur billet d'avion, de train, des hôtels, tout ça, parce que quelqu'un a été diagnosé avec COVID-19 avant de partir, et ben là, ils seront remboursés aussi. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont remboursées, mais en même temps, si le département des affaires étrangères leur dit de ne pas voyager dans un certain pays parce qu'il y a trop de risques, et s'ils décident d'y aller quand même, et ben là, l'assurance ne compte pas. Et s'ils décident de voyager et il y a des problèmes, là, ils vont rien recevoir du tout. Donc, il faut bien savoir ça. Et en plus, ce qui est important de savoir, c'est que la plupart, ou souvent dans ces assurances, dans ces documents, ça ne rembourse pas les gens quand il y a un confinement ou quand la frontière est fermée dans un autre pays. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention si on veut voyager et tout d'un coup il y a un confinement, c'est pas sûr qu'on va être remboursé pour tous nos frais. Donc, c'est possible de voyager, mais il faut bien lire le document d'assurance, il faut bien être certain de comment on va être aidé ou pas avant d'acheter un billet d'avion et partir pour des vacances autour du monde.
Voilà, merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Ouais, merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les cerises ne sont pas encore mûres, mais ces cacatoès rosalbins qu'on entend les surveillent déjà du coin de l'œil. Sous la ligne électrique où ils sont perchés se trouve un verger, où sur 50 hectares sont plantés des pommiers et des cerisiers. Nous sommes dans la région d'Orange, 4 heures de route à l'ouest de Sydney, et l'été approchant, Michael Cunial, le propriétaire, s'attend à une très bonne saison pour les cerises.
We'll definitely have some very big fruit if all things go our way. And these are probably early to mid-December. We like to finish cherries before Christmas. One of those nice Christmas things in Australia where we have a bowl of cherries on the Christmas table, which is always good.
D'ici une dizaine de jours, Michael va donc devoir embaucher une cinquantaine de saisonniers pour assurer la récolte. Comme dans quasiment toute la filière horticole en Australie, ils seront payés au rendement. Un mode de rémunération que défend Michael.
The system of a piece rate tends to make sense. You know, if you want to have a go, you can actually make really good money. And if you're hopeless, you don't.
Mais parfois, même ceux qui se retroussent les manches n'arrivent pas à gagner l'équivalent du salaire minimum. C'est par exemple ce qui est arrivé à Victor et à sa copine dans une exploitation viticole.
On enroulait les branches des vignes autour des fils de fer. On était payé du coup par branche enroulée et on était payé, il me semble, 11 centimes net par branche. Et c'était vraiment catastrophique. On se donnait vraiment, on était, je pense, dans les 10% qui donnaient le plus. Et on arrivait à 9$ de l'heure.
9 dollars de l'heure, c'est moins de la moitié du salaire minimum. Et des employés sous-payés, il y en aurait dans plus de la moitié des fermes, d'après un rapport publié en 2018 par la Fair Work Commission. C'est cette même instance qui, tout récemment, a rendu un jugement en vertu duquel les travailleurs saisonniers ne pourront pas être payés moins que le salaire minimum, c'est-à-dire 25,40 $ de l'heure. Une décision très mal accueillie par Michael.
Well, unfortunately, we're going to have to make decisions on people, but we're going to have to keep an eye on them. And within maybe half a day, we're going to have to let people go. Yes, we could actually be in the situation, and we've never had it before, where fruit goes bad on trees.
Du haut de son chariot élévateur, Rémi examine aujourd'hui les pommiers du verger. Il travaille depuis 3 ans à plein temps sur la ferme de Michael et c'est lui qui encadre les saisonniers lors de la récolte des cerises. Comme son patron, il pense que ceux qui n'arrivent pas à gagner l'équivalent du salaire minimum ne travaillent tout simplement pas assez dur.
Moi j'ai des mecs qui piquent 60 barquettes de cerises à la journée et il y en a qui en piquent 9. 60 barquettes de cerises à 13$, ça fait plus de 700$. Et celui qui en paye 8, ça fait 80. Donc cet écart, il est où ? Il est dans la motivation, je pense aussi. Donc, ouais, il y a des fois, même les bons piqueurs, ils peuvent pas faire d'argent parce qu'il n'y a pas assez de fruits, parce que la ferme n'est pas entretenue, parce que ça, c'est injuste, ok. Mais quand il y en a qui peuvent faire des sous, tout le monde peut faire des sous.
Mais si même ceux qui n'ont pas la fibre agricole partent travailler dans les fermes, c'est parce que c'est indispensable pour renouveler son visa vacances-travail. C'est exactement la raison pour laquelle Kevin, qui est informaticien, a accepté d'aller avec sa copine cueillir des framboises dans une ferme de Tasmanie pendant plusieurs semaines, et ce pour un salaire bien inférieur au minimum légal.
On a décidé de vouloir faire une deuxième année, et pour ça, il fallait faire nos 3 mois de ferme. Et du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé en Tasmanie. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir faire le second visa. C'était pas du tout pour l'argent.
Ces jeunes, qu'on appelle communément des backpackers, ils sont en temps normal 130 000 par an à tenter l'aventure australienne, parmi lesquels on compte plus de 25 000 Français. Mais depuis l'apparition du Covid, ils sont presque tous repartis. En décembre 2020, d'après les chiffres du ministère des Affaires intérieures, il n'était plus que 40 000. En conséquence, les agriculteurs ont depuis beaucoup de mal à recruter. C'est par exemple le cas de Guy Gaeta, un voisin de Michael qui lui aussi produit des cerises.
Last year, I knew we'll manage. There was still enough backpackers from overseas here, and around 80,000. But this year, I'm not so confident. We're used to Mother Nature taking our crops, but to lose your crop because you can't get pickers, never been done before.
Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour permettre le retour en Australie des jeunes en visa vacances-travail. Quant à la décision concernant le salaire minimum, les fédérations d'agriculteurs, qui la contestent, ont jusqu'à la fin du mois pour faire appel. Des perturbations qui ne pouvaient pas plus mal tomber pour les agriculteurs australiens, puisqu'après 10 années de sécheresse, la production cette année devrait battre des records et s'établir en valeur à plus de 70 milliards de dollars. Il est 13h48 sur SBS French et pour la dernière partie de notre émission, on va parler de cirque et plus précisément du cirque français de Melbourne. Christophe Mallet a rencontré Anthony Panel qui donne des cours de cirque à la française dans la ville de Melbourne. On écoute.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, aujourd'hui, dans le programme en français, on a le plaisir d'avoir Anthony Panel et on va parler de cirque avec Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors, le cirque à la française, on connaît, on a déjà pas mal parlé dans le programme en français. Mais là, vous donnez des cours donc de cirque en français à Melbourne. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors, exactement. Donc, moi, j'ai ouvert mon école de cirque dans cette année 2021, en février. Donc, j'ai effectivement choisi la meilleure année pour faire ça. Et donc, j'ai commencé par travailler, créer des contacts avec quelques écoles autour de Melbourne, dont principalement l'école française de Melbourne de Caulfield, la Grande Récré, pour commencer, comme ça. Et donc, j'ai proposé des cours de cirque en français, donc j'ai commencé en français, donc des cours d'initiation cirque pour les enfants principalement. Voilà comment ça a débuté en fait. Donc dans les kindergartens.
D'accord, alors le cirque à la française, on connaît parce qu'il y a une vraie tradition du cirque en France en réalité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture française, c'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, de presque de très français le cirque.
Effectivement, oui, alors moi je suis justement, alors je vais pas dire que je suis à l'inverse de ce courant-là, mais je suis plus dans la mouvance cirque contemporain, dans le sens où je m'inspire plus de ce mélange justement du cirque contemporain entre le théâtre, la musique et toutes ces choses-là, et aussi du fait de mon parcours professionnel en fait, où j'ai travaillé beaucoup en tant que professeur de cirque, mais aussi éducateur sportif. Donc en fait, je fais un gros mélange de tout ça, et finalement, je suis tout sauf cirque traditionnel, si on peut résumer un peu la situation.
D'accord, mais ça c'est très intéressant parce que ça emmène la discussion sur le fait que le cirque, et vous allez me tuer si je dis ça, mais le cirque c'est un vrai sport, c'est vraiment un sport complet, ça peut être considéré comme un sport complet.
Ça peut être considéré comme un sport complet, c'est artistique et sportif. Moi j'essaye de trouver une définition simple comme ça en fait, voilà. Moi c'est exactement comme ça que je le vois en fait, il y a évidemment, de manière très simple, par exemple beaucoup d'artistes qui sont dans les grands cirques ou même les cirques plus petits, sont d'anciens gymnastes professionnels qui se reconvertissent dans le milieu du cirque, par exemple. Mais oui, il faut à la fois une passion pour le sport, pour le mouvement et aussi pour le côté artistique. Les deux vont ensemble, sinon ça fonctionne pas.
Et c'est vrai qu'on a l'exemple, alors pour le coup c'est pas français, c'est canadien, mais le Cirque du Soleil, ça reste le Graal, je pense, pour toute personne qui veut faire du cirque un petit peu artistique. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous a toujours un petit peu émerveillé aussi, le Cirque du Soleil? On a un peu
des... Oui, aussi, effectivement. Et j'ai pas eu encore l'occasion de les voir en direct, mais j'ai vu beaucoup de vidéos. Oui, c'est évidemment un côté très très impressionnant, très très grand, très merveilleux, très très lumineux. Et mais oui, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'après moi j'aimerais beaucoup y aller, effectivement, mais j'ai eu aussi la chance, du fait des connaissances que j'ai pu avoir en France particulièrement, de connaître des compagnies beaucoup plus petites et qui proposent aussi du cirque, de l'art vivant vraiment de qualité, en fait. Et c'est quelque chose que je voudrais aussi essayer de développer ici, pour essayer d'amener dans le futur mes élèves à se diriger aussi vers les petites compagnies de cirque, pour découvrir aussi ça, en fait, ou que, ouais, le cirque, finalement, ce n'est pas que le Cirque du Soleil, ou que il y a autre chose. Voilà.
Et aujourd'hui, comment on arrive à faire rêver les enfants pour le cirque? Parce que c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est un sport complet, mais c'est aussi fun pour les enfants. Il y a du trampoline, il y a des anneaux, il y a tellement une diversité que pour les enfants, ça va être super sympa.
Bah, exactement. Moi, dans mon école, donc The French Circus School, ce que j'essaye de proposer vraiment, et ce que je développe au maximum, c'est le caractère très varié de l'activité. Donc, c'est à la fois, je donne des cours aux enfants à partir de 2 ans et demi. En version parent-enfant, et après je prends juste les enfants et les parents vont boire un café pendant ce temps-là. Et donc j'essaye de proposer vraiment une variété, à savoir il y a tout ce qui est lié à la jonglerie, donc les balles de jonglage, les anneaux, les bâtons du diable, les diabolos, les massues de jonglage, les foulards, les assiettes chinoises, tout ça. Plus ensuite tout ce qui est lié à l'acrobatie, donc tout ce qu'on appelle les acrobaties au sol, très simples, comme roulade avant, roulade arrière. Évidemment, ça se complique selon le niveau et l'âge des enfants. Et aussi tout ce qui est pyramide, acroportée. On peut faire aussi un peu de trampoline. Pour l'instant, je n'en propose pas parce que je viens de commencer, mais après, il y aura aussi du trapèze, peut-être du tissu, des choses comme ça. Il y a aussi toute la partie équilibre sur objet. Donc, un des plus connus, ça peut être par exemple le fil d'équilibre, la poutre aussi qui pourrait rentrer dedans, le monocycle. On a aussi les planches de rouleau américain, donc un rouleau avec une planche où on essaye de trouver son équilibre dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je fais un peu de slackline, si vous connaissez. C'est une sangle qu'on tend entre deux arbres, donc qui bouge en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc vraiment plein de choses. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment adaptable à tous les niveaux et à tous les âges. Quand on a l'expérience d'enseignement, on peut proposer pour les tout-petits comme pour les plus grands le même matériel, mais évidemment avec des situations adaptées. Je ne vais pas demander à un enfant de 2 ans et demi de faire du monocycle, évidemment. Voilà.
Ouais, ou la slackline, on la met un tout petit peu plus bas quand on...
On la met un tout petit peu plus bas, on apprend à trouver son équilibre dessus assis, par exemple, et moi j'aide évidemment pour faire les traversées, ce genre de choses. Vraiment, plein de choses. Et j'avais oublié, pardon, je me permets d'insister, donc il y a toutes ces familles, donc jonglage, acrobatie, équilibre sur objet, et donc trapèze et tout ça aussi, mais il y a aussi évidemment toute la partie spectacle, en fait. Et donc, là pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion parce qu'on a eu une année un peu compliquée, comme tout le monde le sait. Normalement, par exemple, là, je propose des cours de cirque au terme. Et normalement, à la fin du terme, il est possible aussi de préparer un petit spectacle. Parce qu'évidemment, le cirque, c'est une discipline artistique, sportive. Et donc, qui dit artistique, dit aussi spectacle. Et j'apprends à me présenter et à montrer ce que j'ai appris, en fait, aux autres.
D'accord. Bah, tout ça, ça a l'air super intéressant. Vous nous rappelez le site internet, peut-être, où les gens peuvent avoir un peu plus d'informations?
Pour l'instant, si les gens souhaitent voir ce que je propose et avoir plus d'infos, ça va être sur Facebook pour l'instant. Donc, ma page Facebook, c'est simplement The French Circus School, assez facile à trouver. Et donc, voilà, mon site internet est en cours de fabrication. Voilà.
D'accord. Bah, Facebook, c'est pas plus mal aussi.
Ça marche bien aussi.
Merci, Anthony, d'avoir pris un peu de temps pour nous.
De rien.
Les papillons de la jeunesse.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec Claude François et ce morceau, Alexandrie, Alexandra. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission ainsi que l'ensemble de nos reportages et interviews en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, mais aussi sur notre propre application SBS Radio, que vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement. Pour notre part, le prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h précise. En attendant, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt. Alexandra, Alexandra, ouh. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.